Ne vous a-t-on pas annoncé dès le commencement? N'avez-vous pas compris comment la terre a été fondée? Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Hey! Je vais dire quelque chose qui va vous choquer, mais s'il vous plaît, écoutez jusqu'au bout. C'est se moquer de Dieu que de dire qu'il a créé des êtres imparfaits et qu'il exige que nous soyons parfaits, ou alors, si nous ne le sommes pas, il nous damne. Si nous croyons superficiellement que Dieu nous a créés imparfaits et que son Fils est venu pour nous sauver de notre imperfection, imperfection qu'il nous aurait donnée, ça reviendrait à dire que le Fils de Dieu est venu nous sauver de ce que le Père avait fait. Mais si vous approfondissez pas la simple foi qui est enseignée, ben c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça qui en ressort. Parce que les gens ont oublié comment Dieu a créé le monde, pourquoi il a créé l'univers, pourquoi toutes ces choses. Il faut avoir des réponses. Et monsieur les théologiens, qui pensent à la légère, la plaie du peuple, eh bien je ne suis pas en accord avec vous, qui laissait un espèce de flou artistique, et alors on comble tous les manques de la connaissance dans le mot mystère. Mes frères et sœurs, Dieu ne s'est pas lancé dans une expérience créatrice, n'est-ce pas, pour ensuite revenir sur sa décision parce que ça n'a pas marché, à cause d'un ratage. Dieu ne s'est jamais trompé. Et plus, Dieu ne nous a jamais trompés. Jamais. Personne. Le monde a été pensé avant d'avoir été créé. Dieu ne s'est pas levé un matin en disant « Ah ben tiens !» Non. Que la lumière soit, que... Et puis non. Il l'a pensé. Il n'a pas été créé ce monde pour que Dieu puisse, parce qu'il s'embêtait un petit peu dans son éternité, faire une expérience. Non. Dieu voulait quelque chose de précis et il savait pourquoi il créait le monde. Si on ne comprend pas pourquoi il l'a créé, alors mes frères et sœurs, nous sommes obligés de sauver Dieu. Nous sommes obligés de lui trouver des excuses à son inaptitude à créer de bonnes choses. Ou alors, nous pouvons aussi ne jamais aborder certaines questions et les classer, ces questions, dans le tiroir des mystères. Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi des enfants meurent? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi la mort? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas de façon claire et nette? Pourquoi est-ce qu'il a créé le diable? Pourquoi? Alors, mes frères et sœurs, Daniel nous avait annoncé, le prophète, que à la fin des temps, eh bien, la connaissance augmenterait. Ça a été repris par les prophètes et les apôtres du Nouveau Testament qui ont annoncé que, à la fin, l'intelligence serait renouvelée et que nous pourrions comprendre les choses qui, jusqu'alors, étaient restées plus ou moins ténébreuses. La vérité est en train d'être rétablie, et voilà quelle est cette vérité. Dans notre passé éternel, je vous l'ai déjà dit, nous avons décidé de vivre dans cette condition mortelle. Nous avons décidé. Les païens ont aussi décidé. Ils l'ont voulu, pour une raison. Nous avions une autre raison. Dans notre passé éternel, nous avons été mis au courant de tout. Vous voyez, je fais ça avec la main, et ben, j'étais dans mon passé éternel au courant de ce que j'allais faire, même ça. Tout. Tout. Nous avons été mis au courant de tout avant de venir vivre ici-bas, dans cette condition matérielle, mortelle. Dieu ne nous a pas tendu un piège. Nous avons voulu venir vivre ça. Nous savions que nous venions ici-bas pour mener la dernière phase d'une grande histoire, histoire qui a débuté dans le monde des esprits, avant que la matière existe. Les scientifiques ont raison, la Terre n'a pas 6000 ans comme les chrétiens créationnistes le croient. Je crois dans la création, je crois que Dieu a créé, mais je ne crois pas que c'est il y a 6000 ans. Les scientifiques ont raison de dire que ça fait des milliards d'années que cette Terre est là et que l'univers est là. En effet, depuis des milliards d'années, cet univers a été créé. Et sur cette Terre, il y a déjà eu 6 générations humaines avant celle d'Adam. Et il y a eu déjà 6 destructions. Il y a eu création, avec tout un genre d'humains, plus ou moins comme nous, destruction. Ensuite de nouveau, restauration, destruction, comme ça. Et nous sommes la 7e. La dernière destruction, ça a été le déluge. Le déluge d'où Dieu a sauvé Noé et sa famille. À chaque destruction, Dieu a restauré la terre à partir de ce qui existait déjà. Si vous connaissez les langues anciennes, vous allez voir dans la Genèse que Dieu a créé, c'est écrit, Dieu a créé les cieux et la terre, mais ensuite c'est plus le mot créer, c'est former à partir. Tout était là. C'est pourquoi dans Genèse 1-2, il est écrit que la terre, ensuite, après avoir été créée, est devenue informe et vide. Le mot est tohu-bohu, tohu-va-bohu plus exactement, qui a donné tohu-bohu en français, c'est-à-dire devenue informe et vide. Le même mot est employé pour les murailles de Jéricho. Elles étaient belles, elles étaient grandes, elles étaient solides, et elles ont été détruites. Elles ont été rendues informes et vides, tohu-va-bohu. Et la terre, telle que vous la voyez à partir de Genèse 1-2, c'est non pas que Dieu a créé un chaos, Dieu n'a pas créé une terre informe et vide, elle est devenue comme ça après avoir été créée, il y a eu toutes sortes de choses qui sont passées, détruites, restaurées, détruites, etc. Et quand la Genèse commence au chapitre 1, verset 2, elle était de nouveau informée vite parce qu'il y avait de nouveau une destruction. Et Dieu se met à partir de là à restaurer les choses. C'est pourquoi on voit la lumière avant le soleil, enfin bon. Si on ne croit pas comme ça, toute la Genèse est un tissu incompréhensible et très contestable. Mais il faut comprendre les choses telles qu'elles se sont passées, telles qu'on peut le comprendre maintenant parce que cela est révélé. Et Dieu a formé Adam. Là, oui, ça fait 6000 ans à peu près. Mais avant d'avoir formé Adam, il a formé des êtres, comme par exemple les animaux, et puis il y en a plein qui ont disparu, puis il y en a qui sont encore en voie de disparition. Parmi ceux qui ont disparu très rapidement, il existait un animal qui s'appelle, qu'on appelle encore aujourd'hui dans la Bible, le serpent ancien. Le serpent ancien, c'était une espèce de bipède. C'était pas un vipère ou un boa, c'était un bipède, il se tenait debout et il parlait, il était comme Adam, il était fait tellement proche de Adam qu'il a pu avoir une relation avec Ève, ce qui a donné Caïn. Tout ça, si vous connaissez pas, si vous avez jamais entendu parler, vous allez dans le site révélationbible.fr et vous aurez toutes les explications. Nous l'avons eu, cette révélation, à partir du moment où le prophète majeur a donné sa révélation, ensuite dans le livre d'Enoch, ensuite d'autres révélations données par l'ange Uriel. Voilà. Vous pouvez voir tout ça dans Révélation Bible et vous renseigner. Ne dites pas c'est faux. Cherchez à comprendre. Vous pouvez trouver tout ça sur notre site. Le premier homme avait pour nom terrestre, est-ce que vous le connaissez?
Personne ne connaît le nom du premier homme terrestre?
Adam. Ah, c'est bien, vous connaissez votre Bible. Mais dans son passé éternel, il portait le nom qui est tout de suite en dessous du nom de Jésus. Et si vous voulez savoir, ben vous allez dans notre site, vous allez surtout dans notre dictionnaire et vous regardez, vous cherchez, vous trouverez. Cet esprit est venu sur cette terre, donc cet esprit éternel qui était avec Dieu dans le passé éternel, il est venu dans un corps, et ce corps, cette personne, cet être vivant a été appelé Adam. Et il est venu pour un but, pour une raison. Quel but ? Pour ouvrir le chemin final du mal, pour mettre un terme, une bonne fois pour toutes. Non pas une destruction pour recommencer, non, une destruction finale. L'histoire, le dernier épisode, si vous voulez, le dernier épisode de la série. Vous avez vu, maintenant, on a des séries à la télévision. Alors, vous avez la saison 1, la saison 2, la saison 3. Ben là, c'est la même chose. Il y avait déjà eu 6 saisons. La 7e saison, c'est la dernière. Et Adam était un esprit avant, je vous le dis, c'était Michael, celui qu'on appelle l'archange Michel. C'est pourquoi c'est l'archange Michel qui à la fin terrassera le diable. Parce qu'au début, il est venu et il a accepté d'être une victime. Mais cet esprit dans le monde, dans le passé éternel, dans le monde des esprits, avait accepté de venir sur cette terre. Il est venu en acceptant de vivre dans un corps de chair, il a accepté d'oublier son passé éternel glorieux, il a accepté d'accomplir le premier pas qui ouvrirait la voie de la rédemption et de la destruction définitive du mal. Sa chute, elle était nécessaire au plan du salut. Dieu était de toute éternité un sauveur, mais sauveur de quoi ? Pour pouvoir sauver, il faut qu'il ait perdu. Pas de salut s'il n'y a personne à sauver. Dieu est tout, absolument tout dans l'absolu, mais il n'avait jamais manifesté son côté sauveur, sa capacité de sauver. Le salut donc a été pensé avant la fondation du monde, et il n'a pas seulement été pensé avant la fondation du monde, il a été accompli, il a été fait en esprit. Avant la fondation du monde, dans le monde des esprits, avant la fondation du monde. C'est-à-dire, il y a des milliards et des milliards d'années. Nous disons, mais où est-ce que tu trouves ça? Dans Apocalypse 13, 8, il est écrit que Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Et ici, c'est juste la répétition dans la matière. C'est avant la fondation du monde que Dieu a prédestiné l'agneau de Dieu qui ôterait le péché du monde. C'est Pierre qui dit ça, c'est pas seulement Jean dans l'Apocalypse, c'est aussi Pierre qui dit, 1 Pierre 1:20. Avant la fondation du monde, Dieu a prédestiné l'agneau de Dieu qui ôterait le péché du monde. Et l'immolation a eu lieu avant la fondation du monde, Apocalypse 13, 8. Dieu savait, avant de créer, que le mal infesterait le monde, et ça ne le troublait pas du tout. Il voulait même, avant même de le créer, que cela se passe comme ça. Et il a créé le monde pour que le mal se condense ici-bas et qu'il le détruise après un processus de mûrissement. Vous vous souvenez de la parabole ? Non, enlève pas l'ivraie. Pas tout de suite, il faut qu'elle mûrisse d'abord, parce que si elle n'est pas mûre, tu risques d'arracher le blé, de te tromper. Vous vous rappelez de l'histoire ? Et c'est un mûrissement. L'ivraie a été semée, Caïn, et puis ensuite, il fallait que ça mûrisse pour qu'on voie. Et maintenant, nous en sommes au point où nous arrivons à la moisson. L'ivraie montre son fruit réellement. Avant la fondation du monde, Dieu nous a élus, Dieu nous a choisis, choisis parmi d'autres esprits. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu une révolte dans le ciel, voulue aussi. Parmi les esprits, il y avait eu une révolte, et certains ont choisi le côté du mal, c'est-à-dire de la rébellion contre Dieu, c'est-à-dire une opposition au bien, une opposition à la pureté, une opposition à tout ce qui est noble, à Dieu, à ce qui est juste, à ce qui est amour, à Dieu. Ils se sont opposés à ça. C'était le commencement de la séparation du bien et du mal. Alors Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Éphésiens 1, 4. Il nous a choisis et dès que le monde a été créé, il a écrit nos noms dans le livre de vie. Apocalypse 17, 8. Les noms de qui ? De ceux qu'il a choisis, c'est-à-dire de ces esprits qui ne s'étaient pas rebellés. avant la fondation du monde. Quand Dieu nous a élus, quand Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, il nous a donné au premier-né de toute la création, à Jésus qui est Dieu dans la création. Il y a Dieu qui n'est absolument pas dans la matière ni dans le temps. Et puis, à partir du moment où il a voulu créer, la première chose qui a été créée, c'est Jésus. C'est écrit dans Colossiens 1,15. Il est le premier-né de toute la création. Et à ce premier-né de toute la création, Dieu nous a donné, nous, ces esprits-là, ces esprits bons qui avaient été choisis, qui avaient été élus, Dieu nous a donné à Christ, à Jésus-Christ. Colossiens 1,15. En lui, nous dit Colossiens 1,15, tout a été créé. Et c'est en lui que nous avons été choisis. C'est ce qui est écrit. Et il nous a donné au premier-né de toute la création. Écoutez ce que Jésus en dit. Il dit, dans Jean 17,24, « Père, ce que tu m'as donné... » Jésus n'a pas dit, « Ben tiens, je te donne celui-là, puis celui-là, je ne te donne pas celui-là. » Non, c'était dès avant la fondation du monde. Vous comprenez ?« Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, il soit aussi avec moi et qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Vous voyez ? Jean 17,24. Et cette place, Jésus nous assure qu'elle a été préparée dès la fondation du monde. Matthieu 25-34, vous lirez Matthieu 25-34. Cette place, elle a été préparée dès avant la fondation du monde. Et il a aussi préparé une autre place, l'enfer. Afin d'y jeter à la fin, pas maintenant, il n'y a encore personne en enfer. Mais à la fin, il jettera premièrement le diable, et puis ensuite tous ceux qui l'auront suivi. À la fin. Tous ces bouquins qui vous racontent qu'il y a des gens qui sont allés visiter l'enfer, c'est des visions erronées. Il n'y a personne en enfer maintenant. Ça sera après le grand jugement au trône blanc qu'on trouve dans l'Apocalypse à la fin, qui sont jetés là-dedans. Dieu nous dira, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, et prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Matthieu 25, 34. Vous voyez que tout est arrangé avant. Le plan de Dieu s'est manifesté dans un lieu, dans un temps, ce qui est en lui de toute éternité, puisque tout a été fait par lui et pour lui, Jésus, le premier-né de toute la création. Et Dieu s'est manifesté dans un lieu qu'il a créé, dans un temps qu'il a créé. Et il a créé même le méchant afin de le détruire. Ce méchant est la manifestation dans la création de ce qui est en Dieu. Vous allez me dire, mais quelle horreur, mais qu'est-ce que tu nous dis, Michel ? Écoutez, il faut être réaliste. Il faut voir les choses telles qu'elles sont et arrêter de faire de la poésie sentimentale. L'Éternel a tout fait dans un but, même le méchant, pour le jour du malheur, c'est-à-dire de la destruction. Proverbe 16, 4. Il a déjà commencé à séparer le bien et le mal avant la création du monde. Et il nous a choisi, nous. L'Éternel, la Bible nous dit, a tout fait. C'est ce qu'on vient de lire dans Proverbe 16, 4. L'Éternel a tout fait. Il a tout fait. Même Satan, et il l'a fait dans un but, c'est-à-dire pour une raison. Il a tout fait, même le méchant, même Hitler, même Mussolini, même tous ces tyrans, ces horreurs, ces méchants, tout ça, c'est lui qui les a tous faits. Il les a faits dans un but, pour une raison. Et nous, les esprits, dans le monde éternel, nous étions d'accord. La question aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes toujours d'accord ? Parce qu'attention, ça va très loin, ça va vous toucher personnellement. C'est ça la foi. Votre chair, elle crie. Votre chair, elle souffre. À cause des méchants. Pas seulement à cause des méchants humains, comme Hitler et tous ces gens-là. Mais elle souffre à cause des esprits. C'est pas contre la chair et le sang que vous avez à lutter, mais contre des esprits. Votre chair, elle souffre à cause des esprits de maladie. Qui viennent et qui prennent possession de votre corps et qui vous rongent et qui arrivent à même vous tuer. L'Éternel a tout fait. Même ces démons de maladie, même ces mauvais esprits qui vous rongent, qui vous tourmentent, l'Éternel a tout fait et il a fait tout ça pour un but. Quel but ? La destruction, pas votre destruction, la destruction de ce qui est mal. Et le mal atteint souvent le juste. Et il va les détruire. Pourquoi? Parce qu'il est fâché. Oh, je suis fâché que je suis fâché. Je vais les punir, j'en peux plus. Non, c'est pas ça. Dieu va les détruire non pas pour les punir, mais pour se débarrasser du mal. Une fois pour toutes. Parce que n'oubliez pas, depuis toujours, Dieu connaît le bien et le mal. Lisons Genèse 3, 22. Puis le Seigneur déclara, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. » Ah. Dieu est éternel et par la connaissance du bien et du mal, nous sommes devenus comme lui. Vous avez vu? Cette version est bien meilleure que la version seconde. Vous n'avez peut-être pas fait attention. Dans la version seconde, c'est écrit pour ce qui est de la connaissance du bien et du mal. Ici, c'est « Il est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. » Très différent. La connaissance augmente. Les linguistes sont de plus en plus savants et connaissent et peuvent mieux discerner les choses. Dieu est éternel et par la connaissance du bien et du mal, nous sommes devenus comme lui. Et Dieu dit une chose qui fait froid dans le dos. Mais est-ce qu'on a bien fait attention à ce qu'il dit? Il dit, il est devenu comme nous par la connaissance du bien et du mal. Maintenant. Maintenant qu'il est comme nous. Ne permettons pas qu'il avance la main, qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de la vie et qu'il en mange et vive éternellement. Genèse 3, 22. Pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que c'est très difficile de vivre éternellement avec la connaissance du bien et du mal. Et il sait de quoi il parle. Parce qu'il ne voulait pas que nous vivions avec ce qu'il a vécu de toute éternité avec cette connaissance du bien et du mal. Il ne voulait pas ça. C'est pour notre bien qu'il nous a empêchés de prendre de l'arbre de la connaissance, de l'arbre de la vie, parce que nous aurions vécu éternellement avec ce que nous avons là maintenant. Et il ne veut pas ça pour nous. Parce qu'il sait ce que c'est. Il ne le veut pas pour lui non plus. C'est pourquoi il va le détruire. Dieu voulait détruire le mal, ne gardant que le bien. Et Dieu a permis ainsi à ce que son plan de délivrance se poursuive. Premier plan, on crée quelque chose de matériel. On envoie le plus grand des archanges, Michael, il devient ce petit bonhomme Adam, qui savait qu'il allait faire ce qu'il ne fallait pas, mais de façon à ce que le péché puisse entrer dans le monde, que Jésus puisse devenir le sauveur, et qu'à la fin soit mis de côté, le bon grain est livré, et que livré soit détruit. C'est énorme, n'est-ce pas? Alors le mal nous atteint souvent, souvent. Et nous vivons dans cette condition mortelle, ici-bas, avec des esprits contraires qui nous font souffrir chaque jour, il y en a qui sont plus ou moins méchants, il y en a qui sont là juste pour limer notre morale, il y en a qui sont là pour vraiment, ils sont terriblement méchants, il y a toutes sortes d'esprits qui rendent pauvres, qui rendent malades, toutes sortes de misères, ils nous font toutes sortes de mal, qui nous atteignent, nous les élus, aussi bien que les autres. On pourrait dire, oui mais alors Dieu nous a élus, il aurait pu quand même faire qu'on voit la différence entre les siens. Non, 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 non. On doit jouer ce jeu. On est atteint autant que les autres. À quoi ça sert de croire? Attendez, il y a une raison à tout ça. Réfléchissons, méditons. Nous avons une promesse, mes frères et sœurs, que les autres n'ont pas. Dieu nous délivrera toujours du mal. Psaume 34, verset 20. Toujours. D'une manière ou d'une autre. Mais il nous délivrera du mal. Il se servira même de la mort pour nous délivrer de certaines choses mauvaises, pour nous soustraire au mal, après que nous ayons accompli ici-bas ce pour quoi nous sommes venus. La Bible nous dit que la création tout entière souffre, soupire, après la révélation des enfants de Dieu. Que nous soyons révélés, à partir du moment où nous serons révélés, le mal sera détruit. Mais en attendant, c'est une souffrance, la nature entière souffre, et nous aussi nous souffrons en attendant la rédemption, c'est-à-dire le rachat de notre corps, nous souffrons, mais nous avons choisi de venir ici-bas en toute connaissance de cause. Nous le savions, et nous sommes en train de jouer le rôle que Dieu et nous avons décidé que nous jouerions lorsque, dans notre passé éternel, nous nous sommes réunis en conseil avec lui. Et maintenant, la connaissance augmente. Dieu permet que nous connaissions ces choses afin d'atténuer nos souffrances. Je suis vieux maintenant, 64 ans, et je vous promets, je me déglingue de plus en plus de partout, et si Jésus revient pas d'ici 15 ans, je serai mort, je mourrai. Voilà. Mais comme Paul, je dis comme Paul, et que Paul était réaliste et croyant, absolument croyant, eh ben, comme Paul, je dis, mais la mort met un gain, ça met un gain à moi. Elle est un gain pour chaque élu. Parce que retourner auprès du Père, eh ben, c'est notre grande espérance, c'est la plus grande espérance de tous les chrétiens. Ma mort sera mon gain, ça sera un gain pour moi. Mais vous qui allez rester, ben, y en a qui vont pleurer, ils vont être tout tristes, parce que ça fait du mal d'être séparés des gens qu'on aime, ça fait du mal. Mais nous avons une certitude, une promesse, nous nous reverrons. Alors même la mort, le pire des mâles, ça devient un bien. Nous savions que nous passerions par là. Certains ont passé par là dans un accident, comme le prophète majeur de notre âge. D'autres ont passé par là à cause de la maladie, comme Guy, comme Madeleine, ma mère, comme tant d'autres. Et puis d'autres sont partis tranquillement, comme notre frère Osborne. Mais mes frères et sœurs, ce qu'il faut faire, c'est forger notre esprit. C'est le faire passer, pas notre esprit, notre âme. Forger notre âme, la mettre dans le creuset de la parole de Dieu pour qu'elle soit purifiée et qu'elle soit forcée d'accepter cela. N'évincez pas l'idée de la mort. Gardez ça à la pensée. Regardez la mort en face. Votre propre mort, la mort de ceux que vous aimez, tout ça, ça a été programmé et nous étions d'accord tous avec ce programme. Tous les enfants de Dieu étaient d'accord avec ce programme. Nous étions d'accord. Alors maintenant, obligeons notre chair à se soumettre à la volonté, au plan souverain que Dieu a établi et que nous avons accepté dans notre passé éternel. Obligeons notre chair, nos sentiments, nos émotions. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'émotions, mais nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont aucune espérance. Amen. Le but, c'est pas qu'on vienne ici pour souffrir. Le but, c'est pas que nous mourions. Mon père avait mis un tableau, c'était une assiette en porcelaine, et c'était écrit « Aime, mange, bois, tu ne vis qu'une fois ». Mon vieux. Quelle espérance. Le but, c'est pas qu'on meure, qu'on souffre. Le but, c'est la destruction du mal. Avec un M majuscule. La destruction du mal. Le mal a été créé, focalisé en un point. Il a reçu un nom, l'adversaire. Chef de la rébellion, Satan. Puis, des esprits ont été créés pour ça, qui se sont joints à lui. Et ce groupe sera détruit, sans aucun remords, sans aucun état d'âme. On va pas dire, oh, pauvre diable, non, bien fait. Ils ont servi, tous ces êtres, à quelque chose, à la focalisation, à l'incarnation, à la manifestation du mal et à sa destruction. Voilà à quoi ils servent. Voilà le grand but de Dieu. Et on est tout près du but. On arrive, on est tout près. Je suis certain que si Dieu nous révélait la date, on serait très étonnés. C'est tout près. Regardez, l'ivraie montre de plus en plus sa nature. On la reconnaît. Elle peut être arrachée et brûlée sans risque d'erreur. Matthieu 13, 29, 30. Pourquoi? Parce que la moisson est mûre. La moisson est mûre. Paul ne dit pas que notre chair doit devenir insensible. Non. Vous savez, la chair de la plus grande partie des gens de ce monde devient insensible parce que la chair de ces gens-là est surinformée et ça les rend un peu, comment on pourrait dire, imperméables, blasés. Voilà, je lisais là, à Lausanne, un garçon et une fille sortaient d'une boîte, c'est 6 jours. Et puis, elle a eu, elle, un problème ventilatoire, c'est-à-dire elle a eu de la peine à respirer, et son ami essayait de l'aider, et 3 ou 4 voyous sont arrivés, ils se sont fichus d'eux, et le jeune homme a crié, il disait, mais laissez-moi tranquille, elle est mal. Et un de ces mecs qui est arrivé lui a foutu un coup de couteau dans la gorge. On peut pas être insensible, mais on lit ça. Et alors après, je regarde les commentaires. Oui, alors, que fait l'UDC ? L'UDC ou le PKZ, ou j'en sais rien, un parti politique. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout de suite, plutôt que de... Maintenant, on n'est même pas horrifié, on dit, ah, c'est la faute à la politique. Non, mais les gens deviennent... Ils sont anesthésiés. Nous, nous ne sommes pas anesthésiés. Nous ne sommes pas insensibles. Il dit que les gens sans Dieu n'ont aucune espérance, alors ils essayent de trouver un truc. 1 Thessaloniciens 4:13 pour ne pas avoir à faire face à toutes ces horreurs avec leurs sentiments et avec leurs sentiments sont devenus dégénérés. Mais il nous enseigne à nous afin que nous soyons consolés. 1 Thessaloniciens 4:18. Notre âme peut être affligée, mais nous pouvons la consoler. Nous pouvons la consoler en lui apprenant. Et en lui rappelant les promesses de Dieu. Notre âme peut avoir peur, parce qu'elle ne sait pas tout. Elle peut avoir peur, mais elle peut être rassurée en apprenant et en respectant les choses que Dieu a données et écrites et en se les répétant, les repassant dans notre cœur, notre âme peut être rassurée. Notre âme peut être dans un état tel que notre corps se met à verser des larmes, mais elle peut être consolée. Elle peut être consolée en apprenant la vérité au sujet du plan de Dieu, que Dieu a un plan pour nous. Et puis se rappeler de ce plan. Se dire, attends, on arrive au bout, on ne va pas craquer maintenant. Quoi qu'il arrive. Et finalement, alors que nous serons vers le Seigneur, auprès du Seigneur, et que le mal aura été détruit, il essuiera, la Bible nous dit, définitivement les larmes de nos yeux. Le mal ne sera plus, et plus rien ni personne ne pourra vous faire du mal. Ça, c'est ce que Dieu veut. Il le voulait pour lui-même, et il le veut pour ceux qui sont avec lui. Alors, mes frères et sœurs, tenons bon. Soyons fidèles à nos engagements. Nous avons fait alliance avec lui avant la fondation du monde, lors de notre élection. Et puis nous avons été matérialisés et nous avons matérialisé notre alliance ici, sur cette terre, en nous faisant baptiser. Tenons ferme, tenons bon, ne lâchons pas prise. Ce n'est pas le moment de lâcher prise. Il faut tenir ferme, mes frères et sœurs. Les temps vont devenir encore plus difficiles, ça va être encore plus dur. Si vous n'êtes pas capable de tenir aujourd'hui, vous ne tiendrez pas demain. Il faut tenir au jour le jour, à chaque jour suffit sa peine. Il faut tenir ferme. Connaissant le plan de Dieu, vous nourrissant avec cette espérance, avec ces promesses qu'il nous a faites, nous pouvons tenir. Parce que c'est sur sa parole. S'il l'a dit, il le fera. Amen. Mais si nous n'avons pas d'espérance ferme, si nous avons juste une espèce de poésie, oh ben, alors tous, même les païens, hein, les païens, alors là, ils vivent n'importe comment, ils font n'importe quoi, ils jurent, ils blasphèment, puis quand ils sont à un enterrement, ils disent, oh, il est là où il est. Ha ha! Ils sont fous. Insensé est celui qui dit que Dieu n'existe pas. Nous savons que Dieu existe, mais pas seulement. Nous connaissons son plan parce qu'il nous a mis au courant des choses dans les Écritures. Seigneur Jésus, permet que ces Écritures puissent remplir notre cœur et que nous puissions aller de l'avant et traverser toutes les épreuves et toutes les difficultés. Ô les cœurs, pour te glorifier et arriver à la fin, en pouvant être fier d'avoir tenu bon jusqu'au bout. Merci Jésus. Amen. Amen.